Salma fait preuve d'une belle introspection, puis je trouve qu'elle dégage beaucoup de sagesse. Je me sens vraiment privilégiée qu'elle ait eu envie de partager avec moi ce qu'elle a vécu dans son enfance. Je m'appelle Audrey Metcalf et j'ai la fibrose kystique. À cause de ça, on me dit souvent que je suis une source d'inspiration, que je suis donc courageuse. Ben, j'ai eu envie d'inviter des gens qui vivent avec une différence et qui, eux aussi, se font souvent dire « je sais pas comment tu fais ». Aujourd'hui avec moi, Salma Modrika, une femme au grand cœur que j'aime beaucoup, qui est née avec un handicap visuel et la maladie des os de verre, une pas pire recette pour inquiéter des parents et possiblement les rendre surprotecteurs, ce qui n'est pas nécessairement sans conséquence. Allô, Salma.
Allô, Audrey.
Merci d'être là.
Merci à toi.
J'ai mentionné là, que tu es née avec un handicap visuel et la maladie des os de verre, qui est l'ostéogénèse imparfaite, c'est bien ça. Mm-hmm. Peux-tu m'en parler un peu? C'est quoi, en fait, ces deux conditions-là que tu as?
Oui. Alors, pour mon handicap visuel, c'est assez facile. J'ai une atrophie du nerf optique. Je suis née avec ça, donc je suis aveugle depuis la naissance. Pour la maladie des os de verre, ben c'est une condition génétique qui fait que notre corps a une carence en calcium, entre autres choses. Ça fait que ce qu'on appelle la densité de nos os est beaucoup plus basse que la densité normale des os d'une personne qui serait en pleine santé. Dans le fond, c'est comme avoir l'ostéoporose, mais pour enfants.
OK, c'est pas de façon de le dire. Mais ça fait est-ce que ça crée des douleurs physiques?
C'est surtout instable quand on est en pleine croissance. Donc, étant bébé et enfant, j'ai souffert de beaucoup de fractures. Et comme tu peux t'en douter, un enfant, c'est actif, ça bouge beaucoup.
Ben oui.
Et un enfant aveugle, ce n'est pas à l'abri des chutes.
Ah, j'avoue! C'est
donc,
vrai.
J'ai en fait eu des fractures avant même d'être capable de marcher. Dont je ne me rappelle plus parce que j'étais un bébé. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert ma condition, parce qu'ils trouvaient que c'était pas normal que je sois fracturée si j'étais pas tombée, si je m'étais juste cognée sur mon berceau. Donc, je me souviens pas de mes premières fractures. Je sais qu'elles ont été aux jambes. Et je me souviens que j'ai marché tard pour une enfant. J'ai marché à 2 ans. Avec des orthèses.
OK, puis de là, le nom, la maladie des os de verre, parce que ça peut comme se briser facilement.
Exactement.
Mais comment ça s'est passé, en fait? Toi, mettons, dans ton souvenir, là, ton enfance, ça a été comment? Avec tes conditions et le fait que, bon, pour tes parents, c'était pas facile, effectivement.
Ça a pas été facile. Ça a pas été facile parce que j'ai eu une enfance qui était jalonnée de fractures. J'ai pas eu une enfance comme les autres. J'ai fréquenté l'école spécialisée pour personnes handicapées visuelles de ma ville. Mais même si tous les enfants étaient aveugles ou malvoyants comme moi, ben je me sentais quand même à part des autres parce que tous les enfants n'avaient pas ma maladie. Mmh. Et je sentais que en plus d'être pour moi, c'est comme si être aveugle était devenu normal, parce que c'était normal à mon école.
Oui, t'étais entourée de jeunes comme toi.
Mais avoir cette maladie-là, c'était pas normal. J'ai eu beaucoup de fractures, au moins 2 à 3 par année, puis j'exagère même pas. Là.
Oh, quand même.
De mes 5 ans jusqu'à mes... De mes 5 ans jusqu'à mes 11 ans.
Et là, tu manques-tu de l'école à ce moment-là? C'est-tu comme... C'est des fractures, qui impliquent quoi? Tu te retrouves en fauteuil?
Ouais, alors c'est des fractures. J'ai eu beaucoup de fractures de... Ça implique une connaissance accrue de certains os de ton corps que tu n'apprendrais jamais sinon.
Que tu ne sais pas qu'il existe, maintenant.
Tu ne sais pas que le fémur est l'os le plus long de ton corps jusqu'à temps que tu ailles en biologie. Mais moi, je l'ai su à 8 ans quand je me le suis fracturé. Qu'il a fallu qu'il m'opère.
Ah, mon Dieu.
Je vais vous dire que se fracturer le fémur, c'est pas agréable.
Non, il paraît que c'est la pire fracture. Hein. J'ai déjà entendu ça pour vrai.
Ça l'est. Oui. Moi, j'ai scoré, je me suis fracturé 2 fois.
Oh, mon Dieu Seigneur.
Ouais, mais une fois à 8 ans, une fois à 11 ans.
Quand même, c'est beaucoup, mais justement, tu sais, pour un parent, là, c'est sûr qu'il doit y avoir un stress constant de, tu sais, tu veux comme protéger ton enfant pour pas qu'il se blesse. En même temps, faut pas trop non plus. Tu sais, comment ça s'est passé en fait avec tes parents à ce niveau-là?
Pour mes parents, ça a été vraiment plus challengeant parce que pour eux, ils étaient vraiment Puis là, je dis ça vraiment en présupposant. C'est pas quelque chose dont j'ai discuté avec eux, nécessairement. C'est pas quelque chose non plus qui se discute vraiment dans ma culture, dans le sens que, tu sais, je sentais, puis j'ai toujours senti que pour eux, c'était tellement un sujet sensible que qu'ils cherchaient pas nécessairement à en discuter.
Okay.
Parce que ça les affectait trop. C'était trop émotionnellement demandant pour eux. Ils essayaient de se mettre à ma place, puis de prendre tellement... Ça les affectait tellement de me voir souffrir. C'était insupportable pour eux que la seule manière qu'ils avaient, c'était de me protéger. J'étais comme devenue une petite poupée fragile qu'on mettait dans une cage, qu'on s'assurait qu'elle ne sorte jamais de là. Puis on essayait de peindre les barreaux en doré pour dire à la petite poupée, « Regarde, je sais que t'es dans ta cage, mais c'est quand même beau autour de toi, les couleurs, on t'aime. C'est parce qu'on t'aime qu'on fait ça. »
Ouais, ouais.
Ça a eu comme conséquence que ils avaient notamment demandé à l'école que je sois suivie par un adulte dans chacun de mes déplacements. Ça a été en cours de mes 9 ans, donc ma 4e année primaire, jusqu'à mes 15 ans, donc 4e année du secondaire.
Oh, puis 15 ans, on s'entend que c'est un âge où t'as pas vraiment envie de te faire suivre par quelqu'un tout le temps?
Ben, c'est long, 6 ans.
Oui, c'est
ça. À ce moment-là. Et je t'avoue que pour moi, ça a été vraiment la plus grande des conséquences parce que c'est vraiment là que j'ai réalisé l'impact que ma maladie pouvait avoir sur ma vie. Autant avant, je réalisais l'impact de la souffrance physique, mais la souffrance allait passer, mais c'est impactant pour un enfant quand on lui dit on n'a même pas assez confiance que tu te déplaces tout seul dans ta propre petite école, on va te faire suivre constamment. Puis c'était pas par méchanceté ou maladresse, mais moi je me sentais sentencée pour un crime que j'avais pas commis. Je comprenais théoriquement, mais en même temps, je comprenais pas.
Tu te sentais punie, mais alors que t'es née comme ça, là, t'as pas rien cherché. Non. Là.
Ben non.
C'est comme ça que tu l'as vécu, petite?
Oui, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je l'ai vécu vraiment comme une sentence, puis que l'école était devenue ma prison.
Hey, c'est... Alors que normalement, justement, à l'école, c'est là qu'on peut s'évader, t'sais, on a nos amis. Ça a-tu fait en sorte que tu t'es isolée? Tu sens-tu que tu t'es peut-être empêchée d'avoir des amis pour ça?
Bien, je pense que je me suis pas isolée volontairement. Je pense que ça l'a fait que
ça
je me suis isolée.
Ouais.
Ça a fait en sorte que mes relations sociales étaient très difficiles. J'avais du mal à avoir des amis. Puis même si j'avais des gens à qui je parlais ou des connaissances, qui veut être ami avec une petite poupée de porcelaine fragile qui doit être protégée? C'est pas très attrayant.
Mais c'est que ça te pointe du doigt aussi face à tout le monde.
Aussi. Oui, à peu près à chaque année, je devais expliquer aux nouveaux élèves ma maladie, je devais expliquer aux nouveaux profs que j'avais cette maladie-là, puis qu'ils étaient tenus de me suivre. Puis c'était tellement déclencheur pour moi parce que tu demandes à un enfant d'expliquer quelque chose, puis un enfant qui est quand même assez mature pour comprendre, puis espérer devant une figure d'autorité que ça change pas le regard que cette personne-là va poser sur toi, qui va être ton enseignant toute l'année. Puis je me rappelle avoir eu des pensées comme, j'espère que l'enseignant va pas penser que ça change, ça impacte mes capacités à réfléchir ou à performer à l'école.
Ah, mon t'sais. Dieu, ben oui.
C'est pas ma faute, tu sais.
Ben non, puis c'est que ce serait quelque chose qui serait relativement invisible comme condition, mais là, elle devient visible. Fait que c'est sûr que...
Puis ça devient tellement visible que ça... C'est plus que visible, c'est comme une honte parce que c'est quelque chose que tu dois publiciser, que
ben oui.
Tu dois rendre public par obligation. Puis en même temps, c'est pas nécessairement quelque chose dont tu es fière parce que ça te fait vivre les pires moments. T'sais. Qui va être fier d'une maladie qui lui amène que de la souffrance? T'sais. C'est difficile de voir le positif quand, en tant qu'enfant, on voit juste des impacts qui sont négatifs.
Ouais, puis tu peux pas relativiser autant quand tu es enfant, fait que c'est d'autant plus difficile de comprendre à ce moment-là que ben en même temps c'est pour ton bien, mais ça t'a peut-être
non,
pas.
Non, tu le comprends pas. La seule chose que tu comprends, c'est que tu comprends l'amour de tes parents. T'sais, moi aujourd'hui, j'ai beau être mitigée par rapport à ça. Quand j'y pense, je me dis mon Dieu, qui doivent m'aimer, mes parents, puis mon Dieu, qui ont dû être inquiets et dévastés.
Ben oui, c'est sûr.
C'est plus à ce niveau-là, mais...
Mais tu le réalisais-tu, ça, petite?
Non.
C'est ça, c'est aujourd'hui que tu le réalises.
C'est aujourd'hui, puis pas par moi-même, tu sais. C'est aujourd'hui, avec un cheminement, avec du travail sur moi. C'est pas quelque chose qu'on réalise en se levant un matin.
Tu mentionnes que... T'es allé chercher de l'aide, donc en thérapie. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu vas réparer avec la thérapie que tu n'aurais peut-être pas pu faire autrement?
Je pense qu'il y a beaucoup de croyances qui peuvent être changées avec la thérapie. En fait, une des questions qui m'a beaucoup amenée à réfléchir jusqu'à aujourd'hui, ça a été qu'est-ce qui a été le plus grand impact pour toi, qui est encore un impact aujourd'hui au niveau de la façon dont tes parents ont géré la situation. Et je pense que le plus grand impact, ça a été, c'est de me sentir limitée. Pour mes parents, il y avait beaucoup cet aspect-là de « Non, tu peux pas faire cette chose-là parce que t'es malade, parce que t'es fragile. » Aujourd'hui, c'est de constamment me rappeler que je suis plus cet enfant-là. Mm. Que je suis une adulte, que je peux prendre mes propres décisions, puis que, avec de l'accompagnement, puis avec de la sécurité physique, je peux faire certaines choses qui ne m'étaient pas accessibles avant. C'est dur pour moi de pointer exactement une chose qui t'a réparé, mais je pense que c'est de me pencher sur cette petite fille-là, cette petite Salma, de la regarder, réellement de regarder comment elle a vécu ces situations-là, puis d'aller valider son sentiment d'injustice, d'aller valider sa tristesse à elle, puis d'aller chercher une forme, je voudrais pas dire de pardon, mais de prendre soin de cet enfant-là à l'intérieur.
D'avoir de la compassion.
Ouais, d'avoir de la compassion puis d'apprendre à prendre soin des émotions de cet enfant-là. Puis c'est un reflet de comment aujourd'hui je me sens comme adulte. Le plus grand apprentissage, c'est de prendre soin de moi à travers ça, à travers elle, puis en prenant soin d'elle, de la petite fille en moi, c'est de moi dont j'apprends à prendre soin aujourd'hui.
Puis de devenir aussi toi-même la juge de tes propres capacités.
Ouais.
Tu sais, que t'apprennes à... Ce que t'es capable de faire ou non, c'est toi qui le sais, là.
Ouais. Ça va rester un de mes plus grands défis.
Ce serait quoi pour toi la bonne façon qu'il aurait fallu gérer ta maladie pour que l'impact aujourd'hui soit moins grand?
Je pense qu'objectivement, il n'y a pas de bonne façon. Il n'y a pas non plus de mauvaise façon. Je pense qu'il y a des parents qui sont inquiets. Il y a des enfants qui naissent avec des défis qui sont plus grands que les autres. Puis je pense que ces parents-là font de leur mieux. Après, selon moi, de façon personnelle, j'aurais aimé être plus outillée dans ma souffrance. J'aurais aimé qu'on normalise plus les sentiments que je pouvais vivre, d'injustice, de colère. et d'incompréhension. Peut-être que j'aurais vécu ma sentence différemment, de manière plus douce.
Mm.
Puis je pense que c'est important. Je pense que c'est la responsabilité de chaque parent qui a un enfant qui a un défi, de pas juste outiller son enfant, mais d'aller chercher des outils pour lui-même et de s'aider lui-même là-dedans. Il y a des handicaps, je vais le nommer comme ça, il y a des défis, il y a des handicaps, des maladies qui ne sont pas un deuil pour les enfants parce que l'enfant naît comme ça.
Oui, mais connaît pas autre chose.
Ouais, mais c'est un deuil pour le parent et je pense que les parents là-dedans s'oublient, ils oublient de faire leur deuil et ça peut rendre l'enfant à se sentir responsable de ce deuil-là, de porter ce deuil-là pour ses parents. De se sentir triste ou pas accompli ou limité dans ce qu'il peut faire, alors que la réalité, c'est que c'est une question d'état d'esprit, puis que les seules limites qui existent sont dans notre tête. Et si un parent enseigne à son enfant qu'il n'est pas limité, l'enfant va croire une telle chose, donc il n'est pas limité. Et ça peut amener un enfant, de telles conséquences peuvent amener un enfant à se sentir responsable.
Oui.
À porter la douleur de son parent.
C'est
aucun enfant doit être le parent de son parent.
Puis, je terminerai en te demandant, est-ce que tu crois que si t'es mère un jour à ton tour, c'est des outils dont tu vas te servir, tout ce que t'as appris à travers ça, qui vont te servir, en fait?
La vérité, c'est que j'aimerais croire que oui, mais je le sais pas, parce que je suis pas mère. Je n'ai pas la prétention de dire que je vais faire ça avec mon enfant. Je pense que tous les parents se disent ça, puis quand ils sont parents, ils reproduisent ça. Je pense qu'avant d'être un bon parent pour nos enfants, il faut apprendre à faire un travail sur soi avec des professionnels.
Oui.
Il faut apprendre à être un bon parent pour soi. Et la seule chose que j'espère... c'est de pouvoir transmettre des belles valeurs à mon enfant puis qu'un jour, mon enfant ne sente pas qu'il a été responsable de moi dans sa vie. Mais je peux pas le prédire. Je peux juste l'espérer et faire de mon mieux pour ça. Et si jamais mon enfant a un défi que je ne connais pas, je ferai de mon mieux avec ce que j'ai. Est-ce que ça voudrait dire que mon enfant n'aurait pas toutes ces conséquences-là, je le sais pas. C'est l'avenir pour nous le dire.
Ben, je te le souhaite, Salma, vraiment. Tout le travail que tu as fait va clairement porter ses fruits. En tout cas, déjà, mm-hmm. on sent qu'il y a un beau chemin qui a été fait mm-hmm. dans ta tête. Puis je pense que c'est une belle leçon aussi pour des gens qui vont nous écouter, qui peuvent apprendre de ton chemin.
Mm.
Fait que merci. Merci d'être venu en parler. Puis merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi.
Pour découvrir les autres émissions d'Ami Télé, rendez-vous sur amiplus.ca. C'était Je sais pas comment tu fais. Recherche et animation, Audrey Metcalf. Invité, Salma Moudrika. Réalisation, Raphaël Mercier. Une production Ami Télé 2024.